France Musique.
Il me l'a promis, jusqu'à 9h, Jean-Philippe Thiellet sera pédagogique. Bonjour Jean-Philippe Thiellet.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Promis juré ?
On va essayer. Oui, absolument.
Vous êtes le président du Centre National de la Musique. Il est né, ce centre, le 1er janvier, au terme d'une longue, parfois une douloureuse gestation. Pourquoi ce centre ? À quoi va-t-il servir ? Pour qui ? Comment ? Avec quel argent ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles vous allez répondre à nos auditeurs, qui sont à la fois des auditeurs du milieu professionnel, mais aussi, et heureusement, le grand public. D'abord, dès que votre nomination avait été officielle, Jean-Philippe Thiellet, vous aviez gentiment accepté de livrer vos premiers mots à France Musique. Je me souviens que c'était cet automne, votre premier chantier, c'était de trouver un toit pour ce centre. Est-ce que c'est fait ?
Non, c'est pas fait, parce que ça fait 5 semaines que le centre existe et que j'ai pris mes fonctions. Et donc la perspective, c'est un déménagement autour de l'été, parce qu'on va passer d'une quarantaine de collaborateurs à une centaine avec la fusion de différentes structures. Donc déménagement 1er septembre ou 1er octobre au plus tard.
Vous êtes combien ? Vous allez être combien dans ce centre ? Une centaine, c'est ça ?
Oui, parce qu'au 1er janvier, le Centre National de la Musique est né par transformation du Centre National de la Variété et du Jazz. Et dans le courant de l'année, nous allons fusionner avec le Bureau Export, qui, comme son nom l'indique, sert à aider les artistes à se produire sur les scènes internationales, le Fonds pour la création musicale, le FCM, l'IRMA et le CALIF. Et donc nous allons passer d'une quarantaine à une centaine de collaborateurs.
Alors le Bureau Export, on a compris, le Centre de la Vérité, on a compris. Les autres, c'est quoi, le CALIF ?
Ce qui est plus intéressant, c'est de se projeter sur ce que va faire le Centre National de la Musique par agrégation de toutes ses compétences et aussi de ses moyens, qui sont à la fois des moyens publics et des moyens privés qui devraient venir des organismes de gestion collective, c'est-à-dire les sociétés de répartition des droits, la SACEM et les autres. Donc le Centre National de la Musique va avoir 3 principales missions. La première, c'est la connaissance et l'analyse de la filière musicale qui n'a pas de données consolidées, objectives, pour fabriquer du diagnostic partagé, si possible du consensus, pour ensuite mettre en œuvre une politique publique. Donc, un, la connaissance. Deuxièmement, le soutien à la filière. Donc, le soutien à la filière, c'est le soutien à l'équipement. On a soutenu, par exemple, l'hydrophone à Lorient. Donc, ça veut dire de la subvention.
Pour donc, acheter,
c'est de l'argent pour acheter des projecteurs, pour équiper une cage de scène, etc.
Donc, c'est choisir à qui on répartit l'argent.
Oui,
on
y reviendra. Ça peut être aussi soutenir des jeunes artistes, ce qu'on appelle l'émergence, la première partie de concert, aider à l'enregistrement phonographique. Et aider à l'export, c'est extrêmement important, on y reviendra peut-être. Et le troisième volet, eh bien, c'est tout un ensemble de prestations, de formations, de conseils à des artistes qui souvent ne savent pas très bien ce qu'est un contrat, ce que sont les droits d'auteur ou les droits voisins. Donc ce Centre de la Musique va être vraiment la porte d'entrée pour l'ensemble des professionnels et des acteurs de la musique en France.
Toutes ces structures dont vous parliez qui vont être réunies sous le Centre National de la Musique, elles restent ? Par exemple, ce Centre des Variétés, il disparaît ou il reste ?
Il a disparu ipso facto le 31 décembre à 23h59 et le 1er janvier, il est devenu le Centre National de la Musique, mais qui ne sera vraiment le Centre National de la Musique que lorsque le Burex, le FCM et les autres structures eh bien, nous auront rejoints autour de l'été, le 1er juillet sans doute.
Donc une maison commune, c'est l'image que vous...
C'est la maison commune, l'équipe de France de la musique. La musique a enfin son centre. Le cinéma là depuis 70 ans, il y a le Centre National du Livre, il y a le Centre National de la Danse. Maintenant, la filière musicale a son centre national pour l'ensemble des esthétiques et l'ensemble des acteurs.
Alors on va voir d'ailleurs si ces comparaisons avec le Centre National du Cinéma, du Livre sont pertinentes ou pas, mais d'abord, Jean-Philippe Thiellet, d'ailleurs j'ai pas dit que vous étiez jusqu'à à fin décembre, le numéro 2 de l'Opéra de Paris, le directeur général adjoint. On vous a demandé de choisir, pour vous appuyer aussi dans vos explications, quelques musiques. Et la première, eh bien la voici.
Dans mes yeux, vois-tu dans mes yeux combien je t'en veux, comme je tremble. La colère traverse ma peau, coule dans mon... « comme un fleuve.
Vous êtes bien sur France Musique, il est 8h37. Isia, mon idole, c'est le choix de notre invité ce matin. Premier choix, Jean-Philippe Thiellet, le président du Centre National de la Musique qui a vu le jour le 1er janvier. Monsieur Thiellet, vous qui étiez pendant des années le directeur général adjoint de l'Opéra de Paris, vous avez donc choisi comme première musique Isia. Pourquoi ?
Parce que cette chanson me bouleverse tout simplement et que la musique c'est... La musique, pour moi, c'est l'émotion. Et donc, dans cette chanson assez simple, l'accompagnement, vous l'avez vu, est assez simple. Il y a une ligne mélodique et une chanteuse qui met sa voix à nu, peut-être en danger. Du reste, Isia parle très très bien de la voix et de la technique vocale. Elle a plusieurs vies dans sa jeune carrière. Et cette chanson me bouleverse. Rien n'est plus beau que mon idole. Je pense que tous les passionnés de musique, ça leur parle, tout simplement.
Et son idole, c'était peut-être son papa.
Exactement.
Aussi.
Exactement, c'est important, les papas.
On parlait des artistes émergents. Alors, Isia n'est plus vraiment, Isia Higelin n'est plus vraiment une artiste émergente. Comment on dit qu'un artiste est émergent, est confirmé? Comment ça, y a des cases, il y a des catégories?
Oui, alors dans cette filière musicale, il y a beaucoup de cases, beaucoup de catégories, beaucoup d'étiquettes, beaucoup de mots. Tout est contestable. Bon. Maintenant, ce qui compte, c'est quoi? C'est que l'État et certains partenaires privés sont décidés à mettre des moyens pour la filière musicale. Et donc, il y a 7,5 millions de moyens nouveaux. Le budget du Centre National de la Musique, c'est une cinquantaine de millions d'euros cette année. On va petit à petit aller vers 70, 80 millions d'euros. Et puis probablement au-delà, parce que par rapport aux grands frères du CNC...
C'est 10 fois moins.
C'est 10 fois plus, exactement. Le CNC, c'est 10 fois plus. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, il y a la volonté d'une grande politique publique pour la musique. L'émergence en est un des aspects. Mais il y a aussi l'aspect de la continuité, parce que faire émerger un artiste, c'est bien, mais l'accompagner dans la durée, c'est aussi extrêmement important. Et dans l'émergence, je mets aussi, plutôt dans le fait de pousser des nouvelles œuvres, il y a aussi l'aide à la création, à la composition, il faut penser aux auteurs et aux compositeurs. Et donc, le Centre National de la Musique a vocation à couvrir l'intégralité de ce champ avec les moyens nouveaux qui lui sont donnés et ceux qu'on va inventer.
Je parlais de... gestation dans la douleur, donc il est né ce centre dans l'esprit il y a longtemps, il y a eu plusieurs gouvernements successifs, ça a été enterré, c'est revenu, et notamment impulsé par le nouveau ministre de la Culture Franck Riester. L'idée, c'est vraiment sur le modèle du Centre National du Cinéma qui est né en 1947, hein, en gros un Centre National du Cinéma, et cette idée que tout billet qui est vendu dans les salles, bah, les gros films, les petits films, il y a une espèce de partage et une part de chaque billet qui est ensuite répartie par ce centre.
Oui, c'est ça, et ça fait maintenant une quinzaine d'années au minimum qu'on réfléchit à la création d'un Centre National de la Musique. Je crois que ce qui a retardé beaucoup sa création, c'est que y a une très grande diversité des acteurs. Et c'est évidemment un peu paradoxal, parce que la musique, c'est, en industrie culturelle, beaucoup plus important que le cinéma. On estime entre 6, 8 milliards d'euros l'enjeu économique de la filière, si on intègre absolument toutes les dimensions. Il y a 260 000 personnes qui travaillent dans la musique en France. C'est deux fois plus que dans le cinéma. Et pourtant, à cause de cette grande diversité entre les grandes majors et puis les compagnies internationales et puis les petits acteurs locaux, ceux qui sont subventionnés, ceux qui sont pas subventionnés, ceux qui font du jazz, ceux qui font de la musique. Bon, il y avait cette très grande diversité qui a rendu le ministère de la Culture, quel que soit le titulaire du poste, assez prudent sur ces sujets. Et il a fallu une volonté du gouvernement et aussi des parlementaires, puisque c'est une proposition de loi et le Parlement a un rôle très important à jouer dans ce domaine, pour que le Centre National de la Musique voit enfin le jour. Et donc, à partir de maintenant, cette maison commune existe, il y a des financements, on va les faire grossir. À nous, dans un processus permanent de concertation, c'est ce que dit la loi. Donc il faut aimer les discussions, les réunions, discuter avec tout le monde, aller comprendre aussi la réalité de la vie des entreprises qui participent à la musique et la vie des artistes. Donc dans ce processus permanent de concertation, eh bien à nous de bâtir cette politique, de trouver les bons moyens pour que, au fond, dans quelques années, on ait de la diversité, on ait des artistes qui soient présents partout dans le monde pour faire rayonner notre culture, qu'on ait aussi quelques champions nationaux, des grandes entreprises, des agrégateurs, etc. Et que, eh bien, dans quelques années, on se dise que c'était vraiment le bon moyen pour que la musique française soit forte.
Jean-Philippe Thiellet, je reprends cet exemple du ticket de cinéma. Si je prends, moi, un billet pour aller écouter Isia à la Cigale, ou si je prends un billet pour aller à Bastille, à l'Opéra de Paris, est-ce que sur mes 50 ou 100 euros, il va y avoir un pourcentage qui va ensuite au Centre National de la Musique, à vous, Jean-Philippe Thiellet, et ensuite, enfin à vous, au Centre, et ensuite il y a une répartition. Alors, tout billet de musique?
Oui, non, alors tout billet de concert, de musiques actuelles, pop, variété, jazz, humour, qui est aussi dans le et les cabarets sont également dans le champ du Centre National de la Musique. Ça fait à peu près 80 000 représentations par an pour lequel il y a une taxe, une petite partie du prix du billet.
2-3%.
Oui, c'est ça, qui viennent nourrir le budget du Centre National de la Musique, mais qui est ensuite redistribué aux professionnels. En revanche, pour les musiques classiques ou savantes, comme on dit, il n'y a pas de taxe de ce genre. Parce que c'est le ministère de la Culture qui subventionne ce type d'activité. Mais ce qui m'intéresse, c'est réfléchir à ce que ça sera dans quelques années. La même chose par rapport au digital. Qui pouvait imaginer que le streaming allait faire remonter comme ça la possibilité d'écouter de la musique chez soi? Ce qui est important, c'est de réfléchir à moyen terme. Comment va-t-on financer la création musicale en France? Et ça intéresse l'intégralité du champ, quel que soit le mode de financement, taxe ou subvention.
Jean-Philippe Thiellet, le président du Centre National de la Musique, est notre invité jusqu'à 9h. On va revenir dans un instant au streaming. Vous évoquiez le classique. On va aussi, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont du milieu classique et intéressés par celui-ci. Quel est le rôle du Centre National de la Musique dans ce registre-là classique? Vous avez choisi, non pas de l'opéra, non, mais de la musique qui chante, de la musique de Karl Orff.
Est quantiterio sir vehementi, in amaritudine luocor vehementi, factus e materia cinis elementi, civilis un corio e colundum venti, considini proprium viro sapienti, supra petram ponere sentem fundamenti, sulsus ego comparor vol dio lamenti, subeodem tramite nuncam permanenti. Fertura vis, orme tu eventa vinta. Petur gravis, locus est aviris, ugiorque faves, qui Venus imperat, labores suavis, qui nun quam in collidius, habitat in iavis. Violata gradior, ore juventutes, ricorret vitis, ime mortir totes, voluntates avinus. Magis quam salutis, mortus in anima, furam gero totes.
Un extrait de Carmina Burana de Karl Orff, c'était Ludovic Tézier, l'Orchestre Symphonique de Shanghai, dirigé par Yu Long. Votre autre choix, deuxième choix, Jean-Philippe Thiélet, président du Centre National de la Musique. Non, c'est pas de l'opéra, mais ça chante quand même. Un grand chanteur lyrique, Ludovic Tézier.
Oui, immense chanteur lyrique, immense baryton. C'était un clin d'œil. Un jour, j'étais assez petit au collège, en sixième, c'était il y a bien longtemps, et la prof de musique nous a fait écouter Carmina Burana, et c'était une forme de choc. Et j'aimerais que l'éducation musicale dans notre pays puisse aussi provoquer ce genre d'étincelle. La passion pour la musique, ça peut naître comme ça. Et puis Carmina Burana, on a aussi l'habitude dans les dîners en ville de dire « Oh, c'est pas bon ». Mais en fait, c'est de la bonne musique populaire, avec des airs très populaires. Et donc, c'était une forme de clin d'œil pour dire la musique de ce type-là, c'est aussi pour tout le monde.
On peut être classique et populaire.
Absolument.
Votre passage à l'Opéra de Paris pendant des années, parfois vous avez été un peu reproché, on s'est dit « Ah voilà quelqu'un qui vient du classique, qui va s'occuper des musiques actuelles », alors c'est un atout, un handicap, un différent
Non, le Centre National de la Musique ne va pas s'occuper des musiques actuelles. Le Centre National de la Musique va s'occuper de musique. À l'Opéra de Paris, j'ai travaillé aux côtés de Stéphane Lissner, qui m'a appris beaucoup, qui m'a apporté beaucoup pendant presque 6 ans, et même avant, quand il était à la Scala. C'est la maison d'opéra et de danse qui lève le plus le rideau au monde. Donc on travaille avec des artistes au quotidien. Et l'Opéra de Paris est une maison qui est aujourd'hui plus autofinancée que subventionnée. C'est 57% d'autofinancement. Donc c'est une bonne incarnation de l'évolution de la production de musique. Par ailleurs, dans le ballet, on produit aussi des ballets avec James Blake et Jamie XX. Donc je pense qu'au contraire, à la fois pour des raisons managériales et puis des raisons de travail avec des artistes, c'était une très bonne manière de se préparer aux questions que le Centre National de la Musique doit maintenant traiter.
Alors, vous disiez que pour l'opéra, il n'y avait pas de taxes sur le billet puisque c'est subventionné, mais il y a aussi des concerts qui sont entièrement privés dans le classique. Là, c'est la même chose ou pas? Je pense notamment à cet organisateur de spectacle, producteur qui était à ce micro il y a quelques jours, Yves Riesel, qui est, avec son tempérament, évoquait un peu avec un certain courroux l'argent de la Philharmonie de Paris au détriment de concerts privés qui ont lieu salle Gaveau. Ces questions-là, c'est des questions qui vous concernent au Centre National de la Musique?
Bien sûr, avec la cinquantaine de millions d'euros de budget pour 2020, il faut qu'on vérifie en concertation permanente avec les professionnels. C'est pas le président du CNM dans son coin qui dit pour vous 15 000, pour vous 30 000. Non, mais on va définir une stratégie maintenant, puisque cette année on a 7,5 millions nouveaux à dépenser. Donc en ce moment même, on est en train de définir à quoi vont servir ces moyens nouveaux que le Parlement nous a accordés. Il est absolument évident qu'on va regarder des situations, alors je parle pas des concerts de Monsieur Croche pour lequel j'ai une très grande sympathie, mais on a appelé mon attention tout récemment sur la situation d'une maison de chansons françaises qui s'appelle les Bains-Douches à Lignières, qui est en difficulté parce que les communes ont souvent des difficultés. Le Centre National de la Musique va regarder, et pour garantir les objectifs de diversité que je disais tout à l'heure et de présence sur le territoire, parce que le Centre National de la Musique, il est national, ça concerne aussi l'Outre-mer, eh bien on va y aller et vérifier si, avec parfois quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros font la différence. Là, vous parlez de gros paquebots, l'Opéra de Paris, la Philharmonie de Paris, mais très souvent, la vie musicale française, c'est des moyens beaucoup plus réduits.
Et c'est pense à Paris.
Et c'est à Paris. Mais ça, c'est pas un mal. Hein. Mais souvent, avec quelques milliers d'euros, on peut avoir un effet levier qui permet à des artistes de se produire et au public de venir au concert. Donc, naturellement, on regarde ce genre de situation très près.
Cette répartition du budget sera faite comment ? Via des commissions, comme au CNC, au Centre National du Cinéma ?
Exactement, le mécanisme est tout à fait comparable. On a un conseil d'administration très large, et on a ensuite un conseil professionnel que le ministre est en train de composer. Et ensuite, il y a 8 commissions qui sont spécialisées en fonction du type d'aide, qui examinent les dossiers et qui proposent au président d'attribuer tel et tel montant. Ces aides sont versées très rapidement. On est dans l'ordre de 2 semaines. Donc c'est quelque chose qui peut être très efficace pour aider les festivals, aider les projets qui se montent tout au long de l'année. Mais c'est en concertation permanente avec les professionnels.
Mais en revanche, Jean-Philippe Thiélet, on ne peut pas comparer avec le système d'avance sur recette pour la musique.
Non, il y a des avances remboursables, ça existe. En fait, il y a 3 mécanismes. Il y a des aides directes type subvention, il y a des crédits d'impôt, et ça, je pense que c'est important parce que c'est vraiment la logique d'effet levier. Et puis, il y a des avances remboursables qui sont pour des montants plus marginaux.
Allez, musique, le troisième choix de Jean-Philippe Thiélet. Tiens, encore Marseille.
Je marche souvent seule dans tes rues. Et trop souvent aussi j'ai disparu. Marseille, mon cœur si seul cherche ta
Gossi et le grand Ahmad Jamal, Marseille, c'est votre choix, Jean-Philippe Thiélet, choix d'un Marseillais.
Ouais, c'est ma ville de cœur. Si je dis que c'est la plus belle ville du monde, je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais c'est la ville où j'ai appris beaucoup de choses, notamment en matière musicale. Il y a ma famille et Ahmad Jamal rend un hommage formidable dans cet album. Lui qui vient de Pittsburgh, la ville de Art Blakey et tous ces géants du jazz, c'est un bel hommage. Voilà.
On parlait du disque et du streaming tout à l'heure. Il y a eu une crise du disque, il y a une crise du disque physique, il y a un essor immense du streaming dans tous les registres d'ailleurs. Quels sont vos leviers, vous, avec, à part Deezer qui est français, mais un Spotify, un Apple Music qui ne sont pas français, quels sont vos rapports avec eux et comment pouvoir répartir de l'argent quand on verse juste 10 euros par mois pour écouter un nombre infini de titres musicaux ?
On voit bien qu'on est à une forme de virage, un virage positif par rapport à ce qui s'est passé précédemment. On vendait quasiment 130 millions d'albums, toutes esthétiques confondues, il y a 15 ans. On est à une trentaine, et donc c'est évidemment un bouleversement majeur. Le Centre National de la Musique réunit tout le monde. Et donc on parle à Spotify, à Deezer, à Apple Music, aux producteurs naturellement. Ce qu'il faut, c'est se mettre autour de la table et réfléchir à ce qui va se passer. Donc il y a une question assez immédiate et très importante qui est la rémunération des artistes et des producteurs. Donc c'est le fameux débat sur le user-centric qui intéresse beaucoup les auditeurs qui écoutent de la musique classique, puisqu'ils savent que leur abonnement à Spotify ou à Deezer ou à une quelconque plateforme, eh bien, ne va pas rémunérer ceux qu'ils écoutent. S'ils écoutent du classique, ça va plutôt rémunérer les musiques urbaines, les rap, etc. Est-ce qu'on va changer ça ? Est-ce qu'on peut juridiquement changer ça ? Et est-ce que, eh ben, on est en train de travailler là-dessus et avant l'été, nous rendrons des conclusions, un diagnostic partagé et on verra s'il est possible de faire évoluer les choses. Mais encore plus, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce qui va se passer. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu imaginer la révolution du streaming. Donc, mettons-nous ensemble, essayons d'identifier quels investissements le CNM peut aider de manière que, l'ensemble des esthétiques puissent non pas subir les prochaines évolutions autour, par exemple, des commandes vocales, autour de l'intelligence artificielle, mais pour que toutes les esthétiques puissent rayonner, et notamment la musique dite classique, la création contemporaine et le jazz.
Jean-Philippe Thiellet, on est ce mardi matin entre deux victoires, les victoires variétés de vendredi dernier, les victoires classiques qui auront lieu vendredi prochain, diffusées sur France Musique et sur France 3. Est-ce qu'au Centre National de la Musique, vous avez un regard sur la place de la musique et des musiques dans l'audiovisuel, privé, public, les artistes émergents notamment
Oui, bien sûr, plus qu'un regard et même des oreilles, si j'osais. Sur la place de la musique dans l'audiovisuel, nous discutons beaucoup, y compris avec le CSA, et le président Roch-Olivier Maistre a eu un rôle dans la création du Centre National de la Musique, donc il y a vraiment une relation amicale entre les deux institutions et entre nous personnellement. On va contribuer à la préservation de la diversité, notamment à la radio, sur la question des quotas. Sur les victoires, c'est très bien qu'en prime time, il y ait de la musique, soit de la musique de variété pop, soit de la musique classique vendredi. Je serai à Metz naturellement. Je pense que c'est important qu'il y ait ces moments de célébration. Alors on peut toujours regretter telle ou telle catégorie, telle et telle évolution. C'est normal que ces événements-là soient à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Ça évoluera probablement. Et il n'y a jamais assez de musique à la télé et à la radio. C'est pour ça que moi je me félicite que les victoires soient diffusées par le service public.
Le dernier choix musical de Jean-Philippe Thiellet, c'est Polo et Pan, ou Polo et Pan, Canopée, des musiciens français qui marchent très bien en dehors de nos frontières. C'était l'idée aussi.
Oui, bien sûr, c'est la projection internationale. L'an dernier, ils ont joué devant 5000 personnes à Los Angeles. Ils ont joué à Coachella, qui est le grand festival de printemps dans l'ouest des États-Unis. Et donc, coup de chapeau à ces jeunes artistes qui cartonnent à l'international. Et je pense que l'année 2020 va le confirmer.
Et donc, c'est un des rôle du Centre National de la Musique aussi, de faire rayonner les artistes français partout dans le monde.
Absolument, absolument. C'est du soft power ou même peut-être maintenant du hard power.
Jean-Philippe Thiellet, président du Centre National de la Musique, était notre invité. 8h58, voici Canopée. Un tout petit bout de Canopée. Demain, notre invité sera le romancier Yann Kefelec. À la technique aujourd'hui, Adelino Mello et Antoine Giraud. C'est Marion Guillemet, Salomé Coq, Margot Muller qui ont préparé cette émission. Yacine Bouzard l'a réalisé. La réponse à notre jeu, il y a une heure, c'était la musique d'Apostrophe, le premier concerto pour piano de Rachmaninov. Bravo à nos gagnants. À demain, bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.